France Musique.
Pouchkine ou le soleil percé d'une balle. Le 27 janvier 1837, Pouchkine se lève d'humeur gaie à 8 heures. Après le thé, il écrit et déjeune comme d'habitude, à 11 heures, puis demande qu'on lui apporte son manteau. Ayant déjà franchi le seuil de la porte, il se ravise, revient sur ses pas et ordonne que l'on dépose la pelisse dans son bureau. Pouchkine vient de faire marche arrière et de franchir à nouveau la porte de sa demeure. Pour les Russes, c'est un signe de malheur. Le poète est superstitieux et il sait que le seuil de la porte représente une frontière imaginaire entre la vie et la mort. Vers 15h30, vêtu cette fois de sa pelisse, Pouchkine rejoint en traîneau la datcha du commandant de la forteresse, lieu du rendez-vous. Dantès, son rival, est déjà là. La neige est si épaisse que l'on s'y enfonce jusqu'aux genoux. Ayant mesuré le nombre de pas, les témoins jettent leurs manteaux sur la neige pour définir les barrières. On remet les pistolets aux adversaires. Pouchkine, légèrement tourné de côté, s'apprête à viser. Puis un coup sec retentit dans le silence glacé. Pouchkine s'effondre. Depuis lors, Pouchkine est considéré non seulement comme un symbole de Saint-Pétersbourg, mais comme l'une des plus grandes figures historiques de ce pays. Dans les moments de désarroi et même devant les terribles tragédies du XXe siècle, les Russes avaient coutume de dire quand il ne reste plus rien, il y a toujours Pouchkine. La personnalité du poète marqua à jamais l'atmosphère de la capitale de l'Empire des Tsars. Désormais, il y a l'histoire de Saint-Pétersbourg avant et après Pouchkine. Car c'est ici, sur les bords de la Neva, que la grande littérature russe est née. Les poètes, les hommes de lettres, les pamphlétaires, les journalistes, les membres des sociétés secrètes, tous y allèrent de leurs vers piquants ou de leurs strophes vénéneuses. Cependant, personne n'ose s'attaquer au tsar. Pouchkine, si. Sans provocation, mais emporté par cette même fureur de vivre qui l'entraîne à se battre presque toutes les semaines en duel avec ses meilleurs amis. Ses compagnons de débauche et les proches du palais l'ont pourtant averti du danger. C'était sans compter sur la flamme et la verve assassine et moqueuse du poète. L'empereur Alexandre Ier est furieux et juge ses vers séditieux. Ses amis tentent d'intervenir, en vain. La disgrâce de Pouchkine est déjà prononcée. Il doit quitter Saint-Pétersbourg et aller exercer ses talents dans une administration de province. Il n'a que 21 ans. Ce jeune homme, indiscipliné et bavard que la volonté de l'empereur exile de la capitale, n'est pas seulement l'auteur d'épigrammes et de poèmes révolutionnaires clandestins. Pouchkine a terminé, depuis le 26 mars 1820, son poème « Rouslan et Ludmila » commencé en 1817. Encore pensionnaire du lycée Tsarskoïe-Selo, c'est entre deux orgies, deux fatigues ou pendant ses maladies qu'il écrit ce long poème régulier divisé en 6 chants. Les syllabes se pressent sous sa plume, les rimes à court se rangent, se chevauchent, les images s'en mêlent et se détruisent. Il est si pressé, il a si peur de laisser perdre quelques gouttes de cette pluie d'or qu'il note tout ce qui lui passe par la tête. Parfois, il entend la musique d'un vers, mais les paroles manquent encore. Alors, il remplace quelques mots par des blancs. Il se débat seul sous l'avalanche, sous l'enthousiasme fécond. Au seuil de la littérature russe, sombre, prophétique et tourmentée, il y a Pouchkine et son étonnante gaieté. Le poème Rouslan et Ludmila est traversé d'un bout à l'autre par une véritable allégresse. Ses amis l'appellent alors le grillon ou l'étincelle. À peine publiée, cette fantasmagorie déchaîne les passions du public et de la critique russe. Jamais encore une œuvre imprimée n'avait suscité pareil engouement et pareille colère. On eût dit qu'un message essentiel venait de tomber sur la tête des hommes. Il fallait prendre parti, pour ou contre. L'auteur part en exil, en laissant derrière lui ce dernier feu d'artifice. Durant les 6 années passées loin de Saint-Pétersbourg, Pouchkine connaît l'apaisement, l'amour et la création. L'exil se conjugue alors avec un voyage au milieu de paysages exubérants, la découverte de la mer Noire, des aventures radieuses en Crimée. Le poète retrouve sa pureté et y puise un style nouveau. L'amour apparaît comme le secret de la survie. Sur un papier plié en 4, il écrit à la belle Anna Kern « Dans l'ombre d'un exil fatal, j'ai dû traîner mes tristes jours, sans poésie, sans idéal, sans joie, sans larmes, sans amour. Mais l'âme se réveille ardente, car de nouveau tu as passé, comme une vision fuyante et comme un ange de beauté. » Sans amour, il n'est point de Pouchkine. Pourtant, c'est la nostalgie de Saint-Pétersbourg qui fait tout d'abord vivre le héros de l'ouvrage qu'il médite alors, Eugène Onéguin. Futur chef-d'œuvre du poème romantique pour les uns, premier en date des romans réalistes pour les autres. Onéguin, le héros byronien, souffre du mal du siècle, l'ennui, et ne sait alors répondre à l'amour de Tatiana. Le compositeur Tchaïkovski aimera lui aussi la jeune fille, tout autant que Pouchkine, le plus beau portrait de la femme russe selon Dostoïevski. Cette petite encyclopédie de la vie retrace non seulement celle de la capitale de l'Empire, mais aussi celle de toute la Russie. Dès le 4 novembre 1823, Pouchkine écrit à son ami le prince Vyazemski « En ce qui concerne mes occupations, j'écris maintenant non pas un roman, mais un roman en vers, ce qui est diantrement différent. Quelque chose dans le genre du Don Juan de Byron. Je ne songe même pas à l'imprimer, j'écris à la diable. » Le 1er décembre, il écrit à Tourguenieff « J'écris un nouveau poème et je savoure ma propre bile. Deux chants sont déjà terminés. » À son frère, en janvier 1824, c'est ma plus belle œuvre. Le 10 août 1826, lorsqu'il repose sa plume, Pouchkine a rédigé la majeure partie de son roman. Il est déjà son chef-d'œuvre. Le 1er décembre 1825, le tsar Alexandre Ier meurt subitement, sans laisser de descendance. Le renoncement au trône du plus âgé de ses frères provoque une vacance du pouvoir. Un groupe de jeunes officiers, appelés décembristes, presque tous amis de Pouchkine et acquis aux thèses libérales d'Europe occidentale, tente alors un coup d'État pour évincer son autre frère, Nicolas. Pouchkine enrage de sa mise à l'écart dans le midi de la Russie. Mais la révolte échoue et les instigateurs sont exécutés ou exilés en Sibérie. En apprenant le sort terrible de ses amis, il subit un assaut de colère et de honte et compose enfin son admirable poésie, Le Prophète. Debout, prophète de Russie, revêt ta chasuble de honte. Présente-toi la corde au cou devant l'assassin exécrable. Ces événements dramatiques marquent profondément le nouveau tsar. Résolu à défendre l'autocratie, il combat toute tentative de changement. Militaire dans l'âme, Nicolas Ier impose une discipline de fer et crée une police politique qui contrôle étroitement la population. À partir de 1830, ses convictions fondées sur le devoir, l'orthodoxie et la vénération de la Russie orientent les choix artistiques de Saint-Pétersbourg vers une renaissance des formes anciennes. L'exaltation des valeurs nationales devient la source d'inspiration principale. Le tsar veut associer Pouchkine à son effort de renaissance nationale. En juin 1827, après 7 ans d'absence, Pouchkine rentre enfin à Saint-Pétersbourg. Tandis que les lecteurs se familiarisent avec son Eugène Onéguine, Pouchkine vit déjà en esprit dans le passé de la Russie. Du 19e siècle, il descend aux dernières années du 16e siècle. D'Onéguine, il passe à Boris Godounov, d'un dandy à un tsar. Avant d'aborder la première scène de Boris Godounov, Pouchkine s'astreint à un grand travail de recherche et de documentation. Il entend établir une œuvre inattaquable. Il espère régénérer le théâtre russe. Il se sent appelé à être un précurseur dans l'art dramatique, comme il l'a été dans l'art poétique de son temps. Les vieux grimoires, les archives du XVIe siècle et du XVIIe siècle, les études historiques de Karamzine lui fournissent des données précises sur l'époque qu'il veut ressusciter. et les tragédies de Shakespeare renouvellent son inspiration. Suivant son exemple, Pouchkine ignore dans son drame les règles de temps, de lieu et d'action unique. Pouchkine a raison de craindre pour l'avenir de sa pièce. La critique attaque, le public se tait. Dans un décor de neige immobile, les deux adversaires, Onegin et Lenski, se débarrassent de leurs manteaux, se placent, lèvent les pistolets et marchent l'un vers l'autre, à pas lents. Un coup de feu. Lenski s'effondre. Il est tué. Pleure, ô ma malheureuse patrie. Tu n'enfanteras pas de sitôt un tel fils. La mise au monde de Pouchkine t'a épuisé.
À réécouter sur francemusique.fr.